Nous prenons nos Bibles dans le livre de Psaume au chapitre 107. Psaume 107, 19 à 20. Psaume 107, 19 à 20. Lorsque nous lisons la Bible, il est écrit dans Ecclésiaste que nous n'allons pas lire, nous gardons Psaume 107. Le livre d'Ecclésiaste, on pense qu'il a été écrit par Salomon, et Salomon a été roi d'Israël. Et il a dirigé le peuple avec la sagesse que Dieu lui a donnée. Et dans ce livre, Salomon explique les questions que l'homme se pose, les questions existentielles. Pourquoi l'homme existe finalement? Parce que l'homme travaille, il souffre, il fait parfois des sacrifices, mais finalement, il y a des réalités qui sont là. La maladie, la mort, finalement, tous ces efforts que l'homme aura fait, à qui cela aurait servi? Et il s'est posé beaucoup de questions. Et dans Ecclésiaste au chapitre 3, il dit que il y a un temps pour toute chose, il y a un temps pour se réjouir, mais il y a aussi un temps pour pleurer. Et le dimanche dernier, on nous a exhortés sur le fait de servir Dieu malgré la réalité de la terre. La terre a été polluée par le péché, et le péché existant sur la terre, ça fait que le bonheur véritable n'existe pas. Aujourd'hui, on se réjouit du printemps qui va arriver, du beau temps, mais lorsqu'on pense que ce beau temps ne va durer que quelques mois, il y a comme une tristesse dans le cœur. Les gens disent, les scientifiques disent que généralement, la période d'été, les gens sont plus dans la joie, ils sont plus avenants, ils sont bienveillants parce que la température fait que les gens s'ouvrent aussi aux autres. Et quand vient le froid, beaucoup tombent dans la dépression juste à cause du temps. Bon, ce sont les scientifiques qui disent, à cause du temps, le froid, il y en a qui tombent dans la dépression, il y en a qui sont diagnostiqués comme étant dépressifs saisonniers. Donc quand il fait froid, la personne devient triste. Et lorsqu'on voit ces réalités-là, on aimerait bien que le beau temps dure toujours. Mais la réalité, c'est que ce n'est pas le cas. Ecclésiaste dit, il y a un temps pour se réjouir, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour gagner, il y a un temps pour perdre, il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir. Et devant cette réalité-là, la question c'est, qu'est-ce qui peut nous maintenir alors si ce que Dieu a fixé, l'homme ne le maîtrise pas? Alors qu'est-ce qui peut nous maintenir? La Bible dit dans Matthieu 24, au chapitre 35, au verset 35, pardon, que toute chose passera, mais la parole de Dieu demeurera éternellement. Donc, en se basant sur la parole de Dieu, là, on peut vivre une vie, même si les circonstances extérieures changent. Mais puisque nous avons les promesses de Dieu, nous pouvons nous y accrocher et vivre une vie de paix, une vie de joie, malgré la conjoncture, malgré les informations. Aujourd'hui, nous sommes en France. La France est parmi les pays, pourtant c'est un pays très développé, mais parmi les pays qui sont des pays à risque. Qui aurait pu imaginer cela avec les services secrets que nous avons, avec tous les renseignements que nous avons, avec l'organisation que nous avons? Malgré ça, on voit que le bonheur véritable n'existe plus. Ceux qui faisaient la fête autrefois, ils ne font plus la fête parce qu'ils se disent « je crains les grands rassemblements parce que une bombe peut exploser ». Voilà que le bonheur véritable n'existe plus. Non seulement tu ne sors plus, mais même chez toi, tu commences à regarder au palier, regardez les voisins, parce que souvent on entend les témoignages, les voisins disent, mais non, on n'a rien vu. Notre voisin n'avait pas de problème. C'était un bon père de famille. Finalement, la peur te gagne même et tu n'as plus confiance en personne. Et c'est ça la réalité de ce monde. Et nous lisons le psaume 107, 19 à 20. La Bible dit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Il les délivra de leurs angoisses. Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Voilà ce que nous dit la parole de Dieu. Le peuple d'Israël a vécu une situation tellement difficile. Ils ont souffert à cause de leur désobéissance à Dieu. Et Dieu a permis qu'ils soient oppressés. Dieu a permis qu'ils vivent la persécution, qu'ils souffrent. Et dans leur souffrance, ils ont crié à Dieu. Et quelle est la réponse de Dieu ? Dieu a envoyé sa parole. Et sa parole les guérit. La réponse de Dieu a été la parole. Lorsqu'on réalise la puissance qu'il y a dans la parole de Dieu, il est écrit au commencement, dans Jean 1, était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Il est écrit qu'au commencement, dans Genèse, la terre était informe et vide. Et Dieu a parlé. Et la création s'est mise en marche. Le thème de notre exhortation ce matin, c'est « Soyons fortifiés par la parole de Dieu. » Dans leur détresse, dans leur angoisse, dans leur souffrance, ils ont crié à Dieu. Dieu a envoyé sa parole et sa parole les a guéris. Combien de situations autour de nous sont source de détresse? Combien de situations autour de nous sont source d'angoisse? Combien de situations enlèvent la paix? Il suffit de suivre les informations. Les gens adaptent leur comportement en fonction des paroles qu'ils écoutent. Je me rappelle lorsqu'il y a eu la grève dernière contre la loi travail. Ceux qui travaillent dans le carburant ont bloqué les raffineries. Et les gens prenaient des précautions, ils allaient. Pour faire le plein, on ne sait jamais. Les gens vivaient dans la peur. Ils ont adapté leur comportement finalement par rapport à l'information qu'ils ont entendue. Ils ont adapté cela. Et ça, ce sont les gens qui fonctionnent selon le fonctionnement de ce monde. Et nous qui sommes enfants de Dieu, notre fonctionnement à nous, c'est la parole. Si l'information d'un journaliste arrive à créer la peur dans le cœur d'une personne, c'est que la parole, une simple parole, a une puissance. Il y a des gens qui sont de bonne humeur. Il suffit d'un coup de téléphone et la bonne humeur est partie. Même si on fait mine de garder la face, mais au fond, il y a la destruction qui commence à cause d'une nouvelle. C'est pour nous dire que la parole, quelle que soit, elle a une puissance. Quand elle vient, elle peut détruire, elle peut construire. Voilà pourquoi Jacques nous dit de faire attention à la langue. C'est un petit membre, mais ce petit membre, il peut construire, mais il peut détruire. Pourquoi ? Parce que ce membre, lorsqu'il dit des choses, ça va avoir l'impact sur celui qui l'écoute. Et c'est une réalité. Et dans leur souffrance, le peuple crie à Dieu. Et Dieu envoie sa parole. Et sa parole les guérit. Nous lisons Josué au chapitre 1er. Josué chapitre 1er. À partir du verset 1er. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban, jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, et tout le pays des Éthiens, et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré de leur J'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et bon courage. En agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite, ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre ? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Voilà la promesse que Dieu fait à Josué. Josué devait succéder à Moïse. Et nous connaissons tous le travail que Moïse a eu à faire, à libérer, sortir le peuple de la captivité de l'Égypte. Et le peuple, la Bible dit que c'était un peuple rebelle, au cou raide. À chaque fois, malgré tout ce qu'il voyait comme prodige, le peuple en demandait plus. Il a tenté Dieu pour dire, mais Dieu, si tu es Dieu, donne-nous ceci, donne-nous cela. Et lorsque Dieu parle à Josué maintenant, il dit, toi, tu vas succéder à Moïse. Il dit, sois courageux, fortifie-toi. Je serai avec toi. Je ne t'abandonnerai pas. Dans tout ce que tu feras, moi, je serai là. Mais une chose, garde ma parole. Médite-la jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu réussiras. Dieu dit à Josué, en réalité, les difficultés que tu vas connaître, parce que Dieu est conscient, voilà pourquoi il dit à plusieurs reprises, fortifie-toi, fortifie-toi. Il est conscient qu'il y aura des difficultés. En tant que berger, en tant que serviteur de Dieu, il aura affronté le diable, il aura affronté les humains. Parfois même sa propre chair. Mais Dieu lui dit, dans tout ce que tu auras à faire, appuie-toi sur ma parole. Et qu'est-ce que la parole lui dit ? Ce sont les promesses de Dieu, Dieu qui lui dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai pas, ne t'effraie point parce que je suis avec toi. C'est cela. Et ces paroles-là ont fortifié Josué. Dans la marche, dans la mission qu'il avait, même si les choses n'étaient pas faciles, mais il avait une promesse. Dieu est avec lui. C'est cela. Et cette promesse-là se trouve dans la Bible. Et le Seigneur nous invite aujourd'hui à réaliser les promesses qui sont dans sa parole, pour marcher. Il est conscient que les choses sur la terre ne seront pas faciles. Mais les choses sont faites ainsi, pourquoi ? Pour qu'on puisse dépendre de Dieu et de sa parole. C'est ça. Les choses sont faites ainsi pour qu'on dépende de Dieu. Qu'on comprenne que, en réalité, l'homme ne maîtrise rien. Il y a un être qui est au-dessus. Aujourd'hui, avec la sécurité en France, les gens se rendent compte que la gauche, la droite, même le Front National, personne n'a des solutions. Personne n'a des réponses. Personne n'a des réponses à la situation. Et même s'ils avaient des réponses, mais l'homme finira par mourir. L'homme finira par mourir. La vraie solution, c'est la parole de Dieu. Soyons fortifiés par les promesses du Seigneur. Soyons fortifiés par les promesses que Dieu nous donne. C'est cela. Beaucoup cherchent à être fortifiés en faisant de bonnes actions. Beaucoup cherchent à se donner bonne conscience. Beaucoup se disent, je suis un bon chrétien. Tout ça est bien. Mais la Bible dit, lorsque la tempête va frapper, Matthieu 7, 24, lorsque la tempête va frapper, si le fondement n'est pas la parole de Dieu, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, la maison va s'écrouler. Le Seigneur dit, il y a deux hommes qui bâtissent. Celui qui bâtit sur le sable, il gagne du temps parce qu'il n'a pas à creuser la fondation. Mais celui qui commence par la fondation, on a l'impression qu'il perd du temps. Alors que l'autre est déjà au mur. L'autre est encore en dessous, il est en train de creuser, dans le sens inverse, opposé. Mais la réalité, c'est que lorsque viendra la tempête, la maison qui est fondée sur le roc, sur la parole, elle va tenir. Mais celle qui est fondée sur la superficialité, à ce moment-là, on verra qui est chrétien. Lorsqu'on t'annonce une mauvaise nouvelle, lorsque le médecin te dit que tu es malade, c'est à ce moment-là qu'on doit se souvenir que notre Dieu est fidèle. Que notre Dieu ne nous délaisse pas. Que notre Dieu n'abandonne pas ses enfants. Il est écrit dans Jérémie 49. Même s'il arrive qu'une mère abandonne son fils, déjà c'est impensable. Normalement parlant, c'est impensable. Ça arrive. Mais une mère normale, c'est impensable. Mais Dieu dit, même s'il arrive qu'une mère qui a porté son fils pendant 9 mois l'abandonne, l'Éternel dit, moi, je ne t'abandonnerai pas. C'est ça les promesses de Dieu. Et ces promesses, elles sont dans la Bible. Dieu dit à Josué, les choses seront difficiles. Mais dans tout ce que tu auras à faire, rappelle-toi de ce que j'ai écrit, de ce que j'ai ordonné. Nous lisons l'exemple de notre Seigneur, Matthieu 4, 1 à 4. Matthieu 4, verset 1er au verset 4. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres de devenir du pain. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » On nous dit au verset 2, « Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. » Lorsque nous jeûnons, ne serait-ce que 3 jours, on sent l'effet du jeûne dans le corps. Il y a une fatigue, on ne peut pas nier cela. Et le Seigneur a jeûné 40 jours, 40 nuits. Et on nous précise même qu'il a eu faim. Et à ce moment-là, le diable arrive, le tentateur, comme c'est écrit. Il s'approche de lui et lui dit, « Mais si tu es le Fils de Dieu, mais ordonne à ces pierres de devenir du pain. » Pourquoi le diable ne s'est pas présenté avant, pendant la période de jeûne? Pourquoi il ne s'est pas présenté beaucoup plus tard? Il s'est présenté à ce moment-là. Parce que d'abord, Dieu l'a permis, de manière générale, mais deuxièmement, parce que à ce moment-là, il a imaginé, parce que le diable ne peut pas lire dans le cœur de l'homme, mais le diable, connaissant le fonctionnement de l'homme, il va, comme c'est écrit le tentateur, il va tenter, il va essayer. À ce moment-là, il a essayé. Il dit à Jésus, « Eh bien, puisque tu as faim, eh bien, ordonne à ces pierres de devenir du pain. Puisque tu es en situation de faiblesse, puisque tu es faible, mais reprends des forces. Mais pour reprendre ces forces-là, mais fais un miracle. » Et le Seigneur répond, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voilà la réponse du Seigneur. Le Seigneur dit non, la réalité c'est que l'homme a besoin du pain pour vivre certainement, pour avoir des forces. Mais l'homme n'est pas que cela, l'homme n'est pas que chair, l'homme est aussi esprit. L'homme a une âme et cette âme-là, elle a besoin d'être nourrie. Mais elle est nourrie de quoi? Elle est nourrie de la parole de Dieu. Donc en même temps que Jésus répond au diable, il casse les arguments du diable, mais en même temps, ce qu'il dit lui donne plus d'autorité sur le diable. Parce qu'il confesse la parole de Dieu. Il confesse la parole de Dieu. Et bien souvent, le diable fait la même chose avec nous. Par une nouvelle, par une parole, par une pensée même. Il arrive à mettre le doute. Et là, on commence à se poser des questions. Suis-je dans la volonté de Dieu? Est-ce que Dieu m'aime? Est-ce que Dieu est avec moi? On va te dire, mais tu es chrétien. Mais regarde comment tu souffres. Tu as certainement un problème. Parfois, ce sont des arguments qui peuvent paraître logiques. On se rappelle de Job avec ses amis. Les amis de Job lui disent, non, mais Job, on te connaît, tu es intègre. Mais est-ce que tu as déjà vu Dieu frappait un juste. Toi-même qui es juste, tu connais Dieu. Et là, Job commence à se poser des questions. Au début, il était sûr de lui. Il disait, non, moi, je n'ai pas de problème. Mais au fur et à mesure, le temps passant, la souffrance grandissant, la situation ne s'améliorant pas. Et en plus, avec les arguments des amis, là, il commence à se poser des questions. Il se dit, mais est-ce que vraiment? Est-ce que vraiment Dieu est avec moi? Et c'est ça que le diable a voulu faire avec notre Seigneur. Alors, s'il a été capable de vouloir faire ça avec notre Seigneur, il va vouloir le faire aussi avec nous. Il va vouloir le faire avec nous. Comme on a dit tout à l'heure, la parole, une parole a une puissance. Il y a des gens qui ont reçu une parole de malédiction et peut-être que sur le coup, ça n'a pas fait effet. Mais parfois, 15 ans après, la parole qu'il a entendue commence à agir. On m'avait dit que je serais un vaurien. Je suis la honte de la famille. Ces paroles-là reviennent. Et comment refuser ces paroles-là? C'est la Bible, ce que dit la parole de Dieu. Ce que dit la Bible. On t'a dit que tu es un vaurien. La Bible dit dans Ésaïe 43, l'Éternel dit, « Oh, je te connais. Avant que tu aies été créé, je t'avais formé. » L'Éternel dit, Ésaïe 43 toujours, « Même si tu marches dans le feu, sache que je suis avec toi parce que tu es mon bien-aimé et je t'aime. Je t'ai connu avant même que tu sois Jérémie. » Dieu dit la même chose à Jérémie. C'est cela la parole de Dieu. Et là, c'était un combat parole contre parole. Le diable arrive, il dit, « Mais tu es le fils de Dieu ou pas ?» Il lance un défi. Et là, Jésus utilise la parole. Il utilise la parole. Il aurait pu dire, « Oui, je suis le fils de Dieu, et alors ?» Non. Il dit, « Il est écrit. L'homme ne vivra pas de pain seulement. » Donc, Jésus, la réponse que Jésus donne ne répond pas à la question du diable. La question, c'était, si tu es le fils de Dieu, bah, change. Jésus lui dit non. L'homme a besoin d'autre chose. Il a besoin de la parole de Dieu. Il a besoin d'être nourri spirituellement. Il a besoin d'être encouragé. Il a besoin de méditer, d'être dans la présence de Dieu, recevoir la parole de Dieu, imprégner dans la présence de la parole de Dieu, afin qu'il puisse avoir ses forces, afin qu'il puisse vivre. Et c'est ça la réalité. Devant le monde dans lequel nous sommes, un monde incertain, Dieu permet cela pour que nous puissions nous attacher sur ce qui ne bouge pas, sur ce qui ne changera pas. C'est la Bible, c'est la parole de Dieu, ce sont les promesses du Seigneur. C'est cela. C'est cela. Alors dans ta détresse, peut-être que tu t'attends à avoir une prophétie extraordinaire. Alors que tu t'attends à avoir une parole de connaissance extraordinaire, toutes ces choses ne sont pas mauvaises parce que c'est Dieu qui inspire, si c'est lui qui inspire. Parce qu'il y a parfois des paroles qui sont fabriquées par les hommes pour satisfaire la convoitise de l'homme. Mais toutes ces choses, c'est Dieu qui inspire. Mais le plus important, c'est la Bible. On a lu l'histoire de Josué tout à l'heure, lorsque Dieu parle à Josué. Et je me rappelle, on avait fait une étude biblique et ça m'a beaucoup touché, où lorsque Dieu parle à Josué, n'est-ce pas quelque chose de merveilleux? Dieu te parle. C'est formidable. Mais qu'est-ce que Dieu dit à Josué? Il lui dit, la relation avec moi et toi, elle va se faire par la Bible. C'est pour nous dire quoi? C'est pour nous dire que même si Dieu peut faire l'extraordinaire, même s'il peut faire des miracles, même s'il peut te révéler, il peut te révéler toutes sortes de révélations, mais la véritable relation, authentique, c'est la parole de Dieu. Il y a des gens qui disent, Dieu m'a parlé. J'ai vu le Seigneur Jésus, il m'est apparu. C'est formidable, c'est bien, gloire à Dieu. Mais Dieu dit à Josué, attache-toi à ma parole. Voilà. Attache-toi à ma parole. Et qu'est-ce que dit la parole? C'est que je suis avec toi, à tes côtés. Donc il y aura des moments où tu auras l'impression d'être seul. Tu cries à Dieu, il n'est pas là. Ou il semble ne pas être là, mais il est là parce qu'il t'a promis par sa parole. C'est ce qu'il dit à Josué. Et là, à ce moment-là, le diable vient voir Jésus pour lui dire, « Toi, n'est-ce pas le Fils de Dieu? Regarde ta situation, regarde comment tu es faible, regarde comment tu souffres. » Il a voulu défier le Seigneur, mais il ne savait pas qu'il avait devant lui la parole vivante comme il est écrit dans Jean. Jésus lui dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est cela. Et nous avons besoin de la parole de Dieu. Plus que même la nourriture physique, nous avons besoin de la parole de Dieu. Pour notre marche chrétienne, pour faire face aux situations, pour glorifier Dieu, nous avons besoin que tout cela soit fait selon la parole de Dieu. Nous lisons dans Jean au chapitre 11. Jean 11. Donc c'est l'histoire de la mort de Lazare. Et on vient informer Jésus en lui disant « Ton ami que tu aimes, Lazare, est malade. Viens rapidement faire quelque chose, parce que si tu ne viens pas, il va mourir. » Et Jésus reste encore là où il était, exprès. Et nous arrivons à partir du verset 20, on peut commencer. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui veut venir dans le monde. » Ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, « Le maître est ici et il te demande. » Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vu se lever promptement et sortir, la suivirent disant, « Elle va au sépulcre pour y pleurer. » Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, « si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, « Où l'avez-vous mis ? » Seigneur, lui répondirent-ils, « Viens et vois. » Jésus pleura, sur quoi les Juifs dirent, « Voyez comme il aimait. » Et quelques-uns d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait pas-t-il faire aussi que cet homme ne mourit point, Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, « Ôtez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, car il y a 40 jours qu'il est là. Il y a 4 jours, pardon, qu'il est là. » Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sort !» Et le mort sortit, et les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus, crurent en lui. Amen. Voilà ce que nous dit la parole de Dieu. C'est que Lazare était mort. Et Jésus vient 4 jours après qu'il lui-même été enterré. Et il discute avec Marthe. Marthe lui dit, « Mais Seigneur, mais si tu avais été ici, les choses auraient été différentes. Pourquoi Dieu a permis que tu ne sois pas là ? Pourquoi c'est injuste la situation ? » Jésus lui dit, « Non, ce n'est pas un problème, une question que j'ai été là ou pas. C'est question de croire en moi et en mes paroles. » Il dit, « Je suis la résurrection et la vie. » Marthe continue à discuter en disant, « Oui, Seigneur. » Le Seigneur lui dit, « Mais crois-tu que celui qui croit en moi peut vivre ?» Elle dit, « Oui, Seigneur, je le sais, mais ce sera au dernier jour. » Et là, elle part désespérée, elle appelle sa sœur Marie. Elle dit, « Viens voir le maître, discute avec lui, peut-être que lui, il va t'écouter, toi. » Et Marie vient, elle dit la même chose à Jésus. Jésus n'a pas cherché à discuter. Il a dit, « Où est-ce que vous l'avez mis ?»« Seigneur, ça fait 4 jours, il sent déjà. » C'est cela. Soyons fortifiés par la parole du Seigneur, quelle que soit la situation, le problème qui était en face, la mort de Lazare, n'était pas un problème pour Jésus. Est-ce que Jésus avait besoin? C'est la question que je me suis posée en méditant ce passage par rapport au thème. Jésus avait-il besoin de se déplacer pour aller ressusciter Lazare? Il n'avait pas besoin de le faire. On se rappelle dans Jean 4, verset 50, lorsqu'il y a un officier qui vient voir Jésus pour lui dire « J'ai quelqu'un de mourant qui meurt », Jésus lui dit « Rentre chez toi, va en paix ». Et la Bible dit « Cet homme crut ». Et lorsqu'il arrive, les gens lui disent « Voilà celui qui était malade, il vit ». Il demande « C'était à quelle heure ?» Il vérifie, il se rend compte que c'est vraiment Jésus qui a parlé. Donc Jésus, en réalité, il n'avait pas besoin de se déplacer. Mais il s'est déplacé pourquoi ? Pour un objectif, c'est rappeler à Marthe et à Marie la puissance de la parole de Dieu. C'est cela. C'est pour nous dire quoi ? Il y a des situations dans nos vies que Dieu peut régler très rapidement. Mais la Bible dit que rien n'est impossible à Dieu. Il est le Tout-Puissant. Mais il y a des situations que Dieu permet sciemment, parce que quand on l'appelle, Jésus est au courant. Mais non seulement cela, on ne l'a pas lu. Il dit aux disciples, Lazare, notre ami, est mort. Il dort. Donc Jésus, en réalité, il connaissait la réalité. On vient de dire qu'il est malade, mais lui, à l'instant T, il savait ce qui se passait déjà. Mais il a permis, il dit, je me réjouis de ce que je n'ai pas été là. L'objectif de Dieu, c'était amener Marthe et Marie à avoir confiance en la parole de Dieu. Amener Marthe et Marie à croire simplement ce que le Seigneur dit. Bien souvent, nos oreilles sont attentives à ce que les humains disent, aussi imminent soit-il. Nos oreilles sont attentives en fonction de celui qui nous parle. Je donne un exemple. Aujourd'hui, si quelqu'un que tu connais te dit, « Bon, j'ai eu peut-être un songe, tu es malade. Le Seigneur me révèle que tu es malade. Bon, on va le prendre, ça va nous faire un petit effet. Bon, on va dire, bon, le Seigneur me montre parce qu'il veut que je prie. » Maintenant, la même information. Tu vas, le professeur un tel en cancérologie, il vient, il te dit, « Bon, monsieur, voilà, les résultats ne sont pas bons. » Est-ce qu'on va avoir la même réaction? L'information est la même, mais est-ce que la réaction sera la même? Non. Pourquoi? Parce que celui qui nous donne le message, pour nous, on se dit, il est qualifié pour donner ce message-là. Quand il parle, c'est que ce qu'il dit est vrai. C'est que ce qu'il dit est vrai. Voilà pourquoi sur les plateaux de télé, ils invitent de soi-disant spécialistes sur des questions, parce qu'ils estiment que quand cette personne parle sur une question, il a fait des études, parfois 15 ans, parfois 20 ans, parfois, voilà, on estime que quand il parle, il sait de quoi il parle. Or, ici, nous avons celui qui est le plus grand. Jésus parle avec Nicodème. Il dit, mais Nicodème, tu es un enseignant de la loi, tu enseignes la loi aux gens, tu parles de Dieu. Mais Nicodème, Jésus dit à Nicodème, mais vous ne savez pas ce que vous faites, vous ne savez même pas de quoi vous parlez. Il dit, moi, quand je parle, c'est parce que je viens du ciel. Je viens d'en haut. Quand je parle du ciel, de Dieu, je connais Dieu parce que moi, je viens de là. Donc ce que je dis, ce sont des choses que j'ai vues, que je connais. Tout ça pour nous dire que là, ce n'était pas quelqu'un d'autre qui parlait, c'était Jésus qui parlait à Marthe et Marie. Mais voilà, devant la situation, on se dit non. On baisse les bras, c'est fini. Il n'y a plus rien à faire. Jésus dit qu'il y a des gens, la reine de Séba s'est déplacée pour entendre, écouter la sagesse d'un homme. Pour écouter Salomon. Les gens partaient du monde entier avec des présents. Mais il dit, ici il y a plus que Salomon. Non seulement il y a la parole de sagesse, mais il y a la puissance de Dieu véritable. C'est lui qui parle et qui donne la vie. Il dit au paralytique depuis 38 ans, il dit, lève-toi, marche. Il dit à Lazare, Lazare sort. Et Lazare se lève, il sort. Il dit, déliez-le, laissez-le partir. Donc Dieu a permis cette situation pour ramener Marthe et Marie à se rappeler. Parce que Jésus pose une question. Il dit, crois-tu que je suis la résurrection? Celui qui croit en moi va vivre. Marthe savait ces choses-là. Elle le savait parce qu'elle dit, oui, Seigneur, je sais, mais ça sera au dernier jour. Donc ça veut dire qu'elles avaient reçu les enseignements de Jésus. Mais la vie quotidienne a fait, ou la situation présente a fait, que les promesses qu'elles avaient entendues, à ce moment-là, elles les avaient oubliées. Elles étaient tristes. Accusant qu'elles sortent le Seigneur en disant, mais pourquoi tu n'as pas été là? Et le Seigneur dit à Marie, il dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Soyons fortifiés par les promesses du Seigneur. Quel que soit ce que les hommes peuvent dire, quel que soit ce que la situation peut nous montrer, la Bible dit que notre Dieu est tout-puissant. C'est lui qui a le dernier mot. C'est lui qui est l'éternel. C'est lui l'éternel. Il dit, moi je parle et la chose arrive. Et à cause de cela, on peut avoir foi en Dieu. On peut avoir la paix en ce que dit le Seigneur. Quelles que soient les mauvaises nouvelles qui peuvent arriver, nous savons que notre Dieu est présent. C'est cela. C'est cela. On se rappelle de l'histoire du peuple juif qui a été attaqué par la Syrie. Et le chef de la Syrie, le roi Sanchérib, envoie son chef d'armée Rabshaké pour attaquer Israël. Et c'est écrit que Sanchérib a commencé à conquérir toutes les villes de Juda. Et il envoie Rabshaké vers Ézéchias. Il fait une lettre. Il dit, tiens, tu vas donner ça à Ézéchias. Tu vas lui dire que j'arrive. Donc il a deux choses. Soit il signe un accord et là, Israël sera notre esclave, ou alors je vais l'exterminer comme j'ai exterminé les autres. Il lui dit, dis-lui de vérifier toutes les villes qui ne pensent pas que leur Dieu va les délivrer parce que moi, j'ai fait le travail dans tout Juda. Et Eliakim, qui a été envoyé par Ézéchias, prend la lettre, il va montrer ça à Ézéchias. Ézéchias déchire ses vêtements, ils sont dans la peine. Ils disent, mais Seigneur, mais qu'est-ce qui nous arrive, Seigneur? Mais pourquoi tu nous laisses? Pourquoi tu nous abandonnes? Ils vont voir le prophète Ésaïe. Ésaïe prie, il dit, il parle maintenant de la part de Dieu. Cette histoire se trouve dans Ésaïe 36, Ésaïe 37. Dieu parle maintenant par la bouche d'Ésaïe en disant, va dire à cet homme-là, puisqu'il s'est moqué de l'Éternel, donc en parlant de Sanchérib, le roi d'Assyrie, il s'est moqué de l'Éternel, il va voir qui est l'Éternel. Dites-lui que la fille de Sion se moque de lui. Et Dieu dit, tu te moques de moi, mais sache que moi, je vois quand tu dors. Je vois quand tu t'assois, quand tu sors, quand tu rentres. Moi, je te vois. Il dit, pour te prouver maintenant que je suis Dieu, je veux te mettre un anneau dans ton nez, je veux mettre un mors dans ta bouche et je veux te diriger comme un cheval jusqu'à ce que tu sois tué. Et c'est ce qui s'est passé. Lorsque Ésaïe a parlé, Ézéchias, le peuple, ont repris force en la parole de Dieu. Ils ont eu foi en Dieu. Parce que les menaces étaient sérieuses. Quand Sanchérib a envoyé le message, c'était la désolation d'Israël. Il commençait à pleurer. Mais lorsque Dieu a parlé, par la bouche d'Ésaïe, le prophète, ils ont repris courage. Et ils ont vu eux-mêmes, ils n'ont pas eu à se battre. Lorsque Sanchérib arrivait vers Israël, on lui dit, il y a l'Éthiopie qui t'attaque. Fais demi-tour. Il fait demi-tour et quand il repart, il va se prosterner devant ses faux dieux. Et là, il est tué. Voilà, c'est cela. Quand Dieu a parlé, Ésaïe, le peuple, Ézéchias ont mis foi en la parole de Dieu. Et le Seigneur s'est glorifié. Notre Dieu est tout-puissant, il est fidèle. La parole de Dieu que nous avons est puissante. Elle est plus puissante que ce qu'on peut voir. On nous a souvent pris l'exemple, et j'aime beaucoup cet exemple-là, de ne serait-ce qu'un simple panneau de signalisation, on te dit interdit de se garer à tel endroit, interdit de stationner. C'est un simple panneau. Tu peux ne pas faire attention à cela, ce qui n'est pas bon, bien sûr. Mais il y a des têtus, c'est, de, oh, c'est juste un panneau, c'est rien ça. Mais tu vas te garer là-bas. Contravention, je ne sais pas combien, peut-être 12, 13 euros, c'est rien. Majoré, 26, c'est rien. 45, c'est rien. 120, après, ça sera convocation au tribunal. Voilà que un simple panneau qui a été placé, il peut agir sur ta vie. Si tu refuses de te soumettre à ça, il va agir, que tu le veuilles ou pas. Il va agir. Il dit, moi, la loi, je n'ai que faire. Ah oui. Mais un jour, tu seras contraint d'être assis devant le monsieur le juge, comme je vois parfois nos jeunes qui disent, je suis un dur, un caïd. Mais quand ils sont devant madame la juge, souvent quand on les accompagne, là, ils ont la tête baissée. C'est la juge, le chef maintenant. Ils ne parlent même plus. Non, oui, non, oui. Voilà. Un jour, tu auras plus fort que toi. Alors, imaginons que si les choses que les hommes ont fait, des simples panneaux de signalisation, ont une telle puissance, alors à combien plus forte raison la parole de Dieu? À combien plus forte raison la parole de Dieu? Jésus, en venant parler à Marthe et Marie, c'était pour leur dire que le problème de Lazare, ce n'est pas un problème. Le véritable problème, c'est d'avoir foi en ma parole, de croire. Croyez ce que je dis et vous allez voir, quelle que soit la nouvelle. On a pris cet exemple pour montrer que même si la situation est désespérée, non seulement Lazare était mort, mais ça faisait 4 jours en décomposition, mais par la parole du Seigneur, Lazare est revenu à la vie. La Bible dit dans Ézéchiel 37, Dieu parle à Ézéchiel, il dit, regarde les ossements, crois-tu que ces ossements peuvent revivre? Il dit, Seigneur, toi-même tu sais, moi je ne sais pas. Il dit, souffle, tu verras. Il souffle et les ossements reprennent vie. C'est cela que fait la parole de Dieu. Si on accepte, si on la considère comme étant la parole de Dieu, non pas comme la parole d'un homme, eh bien elle va agir aussi parce que la Bible dit que Dieu, quand il envoie sa parole, il l'envoie avec une mission. Ce n'est pas au hasard, il ne parle pas au hasard, il ne parle pas pour amuser. La Bible que nous avons, c'est la parole de Dieu. Et lorsqu'on la considère comme l'apôtre Paul dit, nous rendons grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole que vous avez entendue, vous l'avez reçue non comme celle de moi, Paul, ou d'un homme, mais comme celle de Dieu. Et la conséquence, c'est quoi? C'est que elle agit en vous qui croyez. C'est cela la conséquence. Soyons fortifiés. Nous lisons l'exemple d'un homme. Cet exemple, c'est un exemple que j'aime beaucoup, mais en même temps qui fait réfléchir. C'est l'histoire de Jean-Baptiste. Donc Luc 7. Luc au chapitre 7, à partir du verset 18 au verset 22. Luc 7, 18, 22. Jean fut informé de toutes ces choses par ses disciples. Il en appela deux et les envoya vers Jésus pour lui dire, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Arrivés auprès de Jésus, ils dirent, « Jean-Baptiste nous a envoyés vers toi pour dire, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» À l'heure même, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités et d'esprits malins. Et il rendit la vue à plusieurs aveugles. Et il leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. » Amen. Voilà cette histoire. Alors on va expliquer un petit peu. Jean est en prison. Parce qu'il a parlé à Hérode, il lui a dit la vérité. Et à cause de cela, il se retrouve en prison. Et Jean-Baptiste, c'est celui qui a annoncé la venue du Seigneur. Jean-Baptiste, c'est celui qui a préparé le cœur du peuple juif à recevoir le Messie en disant, il y a quelqu'un qui vient après moi, il est plus grand que moi. Moi, je viens tout simplement pour vous dire de vous repentir, demander pardon à Dieu. Mais celui qui va venir, lui, c'est le Sauveur. C'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean-Baptiste est celui qui a baptisé Jésus. On se rappelle de cet épisode où le Seigneur vient pour se faire baptiser. Jean dit non, mais Seigneur, je ne peux pas le faire. Ce n'est pas possible. Jésus dit non, il faut que ça soit fait comme ça. Parce que Dieu a voulu les choses ainsi. Et Jésus parle, lorsque on peut lire plus bas, verset 23 ou plus loin, Jésus parle de qui est Jean-Baptiste. Il dit, de tous les hommes qui sont nés d'une femme, Jean-Baptiste est le plus grand. Donc sur la terre ici, si tu veux être Donald Trump, si tu veux être Bill Gates, tu veux tout ce que tu veux, sache que le premier sur la terre, c'est Jean-Baptiste. Donc si tu veux être le plus grand, le plus fort, le plus... Sache que la Bible a déjà mis sur la terre le plus grand, c'est Jean-Baptiste. Mais Jésus dit, maintenant le plus petit dans le royaume des cieux, il est plus grand que Jean-Baptiste. Ça c'est une parenthèse, tout simplement pour dire, qui est Jean-Baptiste? C'est lui, en voyant Jésus, qui dit, c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais voilà que Jean-Baptiste est en prison. La souffrance est grande. Grande. Peut-être même qu'on lui a dit qu'il sera tué. Il sera décapité. Est-ce qu'il le sait? On ne sait pas à ce moment-là. Mais il entend parler de Jésus. Il dit à ces gens, venez, allez lui poser la question. Est-ce que c'est vraiment lui? Pourquoi Jean-Baptiste pose cette question-là? Comme on a dit, la souffrance parfois, la détresse parfois, peut nous mettre dans des situations où on commence à parler comme des fous. C'est ce qui s'est passé pour Job. Job est devenu comme fou. Il parlait, il disait des choses, mais en réalité, c'était le chagrin qu'il avait au fond de lui. Comme Anne, on se rappelle lorsque Élie le sacrificateur lui dit, mais tu es ivre. Il dit, non maître, je ne suis pas ivre. En fait, j'ai un chagrin au fond de moi. La souffrance est tellement grande que les mots ne sortent même plus. Alors tout ce qui me vient, je le dis à Dieu. Et Jean-Baptiste était dans une souffrance très grande, à tel point qu'il envoie ces gens pour dire, allez poser la question, est-ce que c'est vraiment Jésus? Est-ce que c'est vraiment lui? Est-ce que je suis vraiment dans la volonté de Dieu? Et mais si c'est le cas, mais pourquoi le Seigneur me laisse souffrir comme ça? Seigneur, j'aurais pu être plus utile en étant à l'extérieur, à parler de toi. Seigneur, pourquoi je suis tant malade? J'aurais pu être utile à chanter pour ta gloire. Si moi je ne le fais pas, qui va le faire? Jean-Baptiste était dans toutes ces questions. Et la réponse de Jésus, verset 22, il leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. C'est une question qui semble ne rien avoir avec la situation de Jean. Jésus connaissait Jean. Ils étaient même cousins. Donc, il aurait pu dire, ah, dites-lui, c'est moi Jésus, je suis en train de travailler. Dites à Jean que son problème, Dieu s'en occupe. Et Jésus répond, on va lire, c'est une parenthèse, Ésaïe 35. Comme Jean était prophète, la souffrance a fait que il a oublié la promesse de Dieu. Mais il était prophète, il connaissait la loi. Donc nous lisons Ésaïe 35. C'est la réponse que Jésus donne là à Jean. Il lui dit, dites-lui seulement ça, lui il va se rappeler. Ésaïe 35. Ésaïe 35, verset 1er. Le désert et le pays aride se réjouiront. La solitude s'égayera et fleurira comme un narcisse. Elle se couvrira de fleurs et tressaillera de joie. Avec chants d'allégresse et cris de triomphe, la gloire du Liban lui sera donnée. la magnificence du Carmel et de Saran. Ils verront la gloire de l'Éternel, la magnificence de notre Dieu. Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Alors, s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet éclatera de joie. Car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. Et donc on revient au verset 4, la fin, qui nous dit la rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Donc cette prophétie, chez moi c'est écrit le temps messianique, on parle de qui, si on a bien compris? On parle de Jésus. On dit que Dieu lui-même viendra pour sauver les hommes. Et il y aura des signes, les boiteux vont marcher, les aveugles verront, les sourds vont entendre, les muets vont parler. Et la bonne nouvelle sera annoncée. Et c'est ça la réponse que Jésus donne à Jean-Baptiste. Il lui dit, allez lui dire. Alors, je me suis posé la question. Est-ce que cette question-là a dérangé Jésus? On se rappelle, il y a quelques fois où le Seigneur était intrigué de voir que les disciples n'avaient pas la foi. Il disait, mais jusqu'à quand je serai avec vous? Mais pourquoi vous ne comprenez pas? Pourquoi vous êtes si durs d'entendement? Et là, les gens viennent lui dire, Jean-Baptiste pose la question. Je pense qu'une réaction normale, ça aurait interpellé Jésus pour se dire, mais non, mais c'est pas Jean qui peut me poser cette question-là. C'est pas Jean-Baptiste. C'est pas lui qui peut me poser. Mais Jésus n'a pas relevé ça. Pourquoi? Parce qu'il sait. Il sait que la souffrance des gens était tellement grande. Dieu connaît notre souffrance. Dieu entend notre souffrance. Dieu ne nous reproche pas qu'on ait de souffrance. Dieu ne nous reproche pas qu'on passe par des moments difficiles. Mais ce qu'il ne veut pas, c'est que par ces moments difficiles, qu'on refuse de se soumettre à sa volonté. Jésus entend cette question-là. Je pense qu'à ce moment-là, il a compati. Il a dit, allez rassurer Jean. Jean-Baptiste, pardon. Allez rassurer Jean-Baptiste. Dites-lui que le Messie est là. Les aveugles voient. La parole de Dieu est annoncée. Et je pense, on n'a pas la suite, mais je pense que cette parole que Jésus a envoyée a fortifié Jean-Baptiste en prison. Amen. Jean-Baptiste. Il y a des temps qui sont difficiles. On s'arrache les cheveux. Le Seigneur nous dit, souviens-toi de ma parole. Qu'est-il écrit? Le Seigneur lui dit, allez lui dire, c'est moi Jésus. Et je pense que quand ils sont arrivés, ils lui ont dit, bon, il nous a dit simplement que les aveugles voient, que les paralytiques marchent, que les sourds entendent, les muets parlent, la parole est prêchée. Cela a suffi pour calmer, pour dire, ah oui, c'est lui le Messie. Soyons fortifiés par la parole de Dieu. Parfois même, la réponse de Dieu ne va pas, on va penser que ça ne cadre pas avec ma situation. On se dit, mais moi mon problème c'est la maladie, pourquoi on me dit d'obéir à la parole de Dieu? Moi on me dit de jeûner. Moi je veux une parole de consolation, qu'on me dise que je vais être guéri. Moi on me dit d'aimer les gens, d'aimer mon prochain alors que je suis malade. Mais ça n'a rien à voir. Le Seigneur sait que ce qu'il nous donne, c'est ce qu'il convient. Et la réponse de Jésus-Christ a suffi pour calmer les doutes, entre guillemets, pour calmer l'angoisse, la détresse que Jean-Baptiste vivait à ce moment-là, l'oppression qu'il vivait, cette parole-là a suffi. Elle a été donnée avec autorité. Et là, il s'est souvenu. Il s'est dit, oui, je ne suis pas sur le mauvais chemin. Dieu ne m'a pas oublié. En réalité, c'est la volonté de Dieu qui est en train de s'accomplir. C'est ce que Jean, je pense, c'est pas écrit, on pense que c'est ce que Jean a dû se dire, que là, la volonté de Dieu. Dieu est en train de suivre le protocole, le cours des choses. On sait que quand il y a des événements, il y a un protocole avec à telle heure il y aura ci, à telle heure il y aura ça. Et dans la difficulté, Jean était bouleversé, mais le Seigneur lui dit, le protocole est en train d'être suivi. Rappelez-lui Ésaïe 35. Il connaît la loi et il va se rappeler. Et cette parole a suffi pour calmer Jean. Alors il peut arriver aussi qu'on soit dans des situations parfois qui causent la tristesse. Bien souvent, c'est parce que nous avons mis la parole de Dieu de côté. On se rappelle, on ne va pas le lire cela, l'histoire des disciples d'Emmaüs qui retournaient chez eux tristes, la tête baissée. Ils parlaient entre eux et un homme vient poser la question, mais de quoi vous entretenez-vous? Ils disent, mais toi, tu séjournes ici, tu ne sais pas ce qui est arrivé ces derniers jours. Mais Dieu a envoyé un prophète puissant, fort, en parole, en miracle. Mais voilà qu'il a été mis à mort. C'était lui notre espoir. C'était lui qui releverait Israël. C'était lui notre libérateur, notre sauveur. Et le Seigneur regarde ces hommes, il dit, oh, hommes sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire ce qu'ont dit les prophètes. Et qu'est-ce que le Seigneur a fait? Le Seigneur n'a pas dit, c'est moi Jésus, c'est moi. Non, comme Jean, il n'a pas dit aux gens, dites à Jean, c'est moi Jésus. Non, Jésus a estimé à ce moment que la parole doit suffire pour donner la foi. Il a dit, mais il prend le psaume, il prend le livre des prophètes, il commence maintenant à rappeler les choses. Mais n'est-il pas écrit que le Christ devait souffrir? Il serait mis à mort. Et le troisième jour, il ressusciterait. Et là, les yeux de ces hommes s'ouvrent. Ils se disent, ah oui, pendant qu'il parlait, notre cœur est en train de bouillir. C'est pour nous dire que, bien souvent, la tristesse est là, puisque nous oublions les promesses de Dieu. La promesse de Dieu est toujours là. Elle est toujours là, elle est disponible. Parfois même, on la reçoit, mais notre cœur n'est pas disposé. Pourquoi Jésus reproche à ses disciples d'Emmaüs en disant « Ô homme sans intelligence, dont le cœur est lent à croire » Parce que Jésus avait déjà dit ça à ces gens-là. Il dit à Pierre « Je veux mourir » dans Matthieu 16. Pierre dit « Non Seigneur, que cela ne t'arrive pas. Tu es tellement bien avec nous. » Parfois les promesses de Dieu sont là, on les donne, on nous les donne, mais notre cœur n'est pas disposé à entendre. On dit « Non. » Moi, ce n'est pas ça que je veux. Moi, je veux autre chose. Or, si le Seigneur nous donne ça, c'est parce que, comme on a vu le mardi dernier, que parfois Dieu nous donne des choses aujourd'hui, mais il sait qu'on en aura besoin dans 3 mois. Il sait que cette parole qu'il t'a donnée aujourd'hui, dans 10 ans, cette parole-là, tu en auras besoin. Mais sur le coup, on se dit, non, ce n'est pas mon problème, ça. Pourquoi on me dit ça? Pourquoi tel m'a prophétisé sur moi? On se fâche même. On dit non. Moi, je suis un bon chrétien. Non. Prends ça. Dis, bon Seigneur, éclaire-moi. Et ces hommes-là, pendant que Jésus parlait, eux, ils ne voulaient pas ça. Ils voulaient un libérateur. Comme les Zélotes, c'était une secte de juifs qui se rebellaient, qui menaient des actions pour la délivrance d'Israël. Et c'est ça qu'ils attendaient, un libérateur comme ça. Et Jésus a dû rappeler la parole. Et là, ils se sont rappelés. Et la Bible dit qu'ils allaient vers Emmaüs. Et quand ils ont ouvert les yeux, ils ont compris que c'était Jésus. Ils sont allés à Jérusalem. Ils ont changé de direction. Ils sont allés à Jérusalem dire aux apôtres, nous avons vu le Christ. Il est vivant, il est ressuscité. C'est cela. La tristesse vient lorsque on abandonne les promesses de Dieu, lorsqu'on met la Bible de côté. On te prend la Bible, on te dit, voilà ce qui est écrit. Oui, mais non, mais non, mais non, mais il y a toujours des explications, non. Et là, quand viendra la tristesse, qu'est-ce qui va te soutenir? Qu'est-ce qui va te fortifier? C'est la même parole. Et Jésus a rappelé à ces gens-là, voilà ce que dit la parole. Et le Seigneur aussi, aujourd'hui, ce matin, il nous rappelle sa parole, il nous rappelle ses promesses. Il nous dit que nos cœurs ne se troublent point. Il nous dit qu'il est avec nous. Il nous dit, même si nous marchons dans le feu, il est là avec nous. Ésaïe 43. Même si nous marchons et que l'eau nous submerge, l'Éternel est avec nous. C'est ça les promesses de Dieu. Alors n'oublions pas cela. Pour ceux qui étaient là, le mardi, on a vu le témoignage d'un homme, je crois qu'il s'appelait Tony, qui était en prison, qui était dans un gang, qui a tué même des gens, qui était dans la violence. Et un évangéliste lui a parlé du Seigneur. Pendant longtemps, il lui a parlé du Seigneur. Et il a accepté de se convertir. Et un jour, il y a eu un conflit avec un détenu. Et il dit qu'il avait une seule envie, c'était de tuer ce détenu-là. Parce que ce détenu, je crois qu'il avait agressé quelqu'un qui était proche de lui. Et lui, il voulait faire vengeance. Et lorsqu'il a voulu faire ça, l'autre prend une lame de rasoir ou quelque chose de tranchant pour lui dire bah, « je vais t'égorger avec ça ». Et il était démuni. Mais il dit, c'est bizarre parce que le matin même, il a lu dans la Bible que celui qui tue par l'épée périra aussi par l'épée. C'est une parole qu'il a lue le matin, peut-être qu'il n'avait rien à voir avec sa situation. Peut-être que lui, il priait, il criait à Dieu, que Dieu ait pitié de lui qui sort de la prison. Que Dieu s'occupe de lui. Mais voilà qu'à ce moment-là, où l'autre le menace de le tuer, de trancher la gorge, il se rappelle de cette parole-là. Et ça l'a calmé. Et il dit, à ce moment-là, je me suis laissé faire. S'il voulait me trancher, il n'avait qu'à me trancher. À ce moment-là, j'ai abandonné mon sort entre les mains du Seigneur. À ce moment-là, la parole est venue le fortifier pour lui dire, tu n'as pas à combattre. Comme notre bien-aimé a dit tout à l'heure. Exode 14, 14, Dieu dit à Israël, il dit, Moïse dit au peuple, les Israéliens qui voient, les Égyptiens qui voient, ils ne verront plus. Dans cette affaire, vous n'aurez pas à combattre, c'est Dieu qui combattra pour vous. Et il s'est laissé faire. Il a fait une prière et le monsieur qui était en furieux, en colère, est parti en courant. Il a fui. Il s'est dit, ah bon? Donc Dieu est tellement puissant que la prière que j'ai faite, le verset que j'ai lu, qui m'a tranquillisé, la prière que j'ai faite à ce moment-là, a fait qu'un homme violent puisse fuir comme ça. C'est ça la puissance de Dieu, la puissance de la parole de Dieu. Alors souvenons-nous des paroles. Dans notre détresse, relisons les promesses de Dieu. Nous finissons par Jean au chapitre 16. Jean 16, 1 à 4. Jean 16, 1, 4. Je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Ils vous excluront des synagogues. Et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Et ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Je vous ai dit ces choses afin que lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez que je vous les ai dites. Je ne vous ai pas parlé dès le commencement parce que j'étais avec vous. Le Seigneur dit au verset 4 que ces choses, je vous les dis à l'avance pour que vous vous souveniez quand la difficulté va arriver, quand les souffrances vont arriver, quand la mauvaise nouvelle va arriver. Là, il parle notamment de la persécution qui frapperait les disciples. Et il dit qu'il y aura des gens même qui vous tueront en étant conscient de, enfin, en pensant rendre un culte à Dieu. Et c'est la réalité parce que on connaît par la suite l'histoire de Saul de Tarse, qu'on appelle l'apôtre Paul, qui tuait les chrétiens étant convaincu qu'il servait Dieu. Et Jésus dit toutes ces choses, je vous ai dit cela en avance, pour que Vous ayez confiance en moi. Dans la version, le premier verset, peut-être ça paraît un peu difficile dans ma version. Je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Mais dans la Bible français courant, c'est écrit, je vous ai dit ces choses pour que vous ayez totale confiance en moi, en mon Père et en moi. Je vous ai dit ces choses pour que vous ayez une totale confiance en mon Père et en moi. C'est cela. Afin que vous vous souveniez, lorsque les temps seront difficiles, que le Maître nous a prévenus, mais que le Maître nous a dit qu'il est avec nous, quelles que soient les situations. Alors acceptons de nous remettre à la parole de Dieu. Lisons les promesses du Seigneur. Le psaume 119, tout seul, qui parle de la parole de Dieu, qui parle de la bonté de Dieu, la puissance de Dieu au travers de sa parole. C'est ça que Dieu nous a donné pour nous fortifier. Dieu ne nous donnera pas autre chose. Comme Jésus a dit, a envoyé le message à Jean-Baptiste pour dire, l'Écriture est en train de s'accomplir, c'est ça. Le message qui suffisait pour encourager Jean-Baptiste. Jésus a parlé aux disciples d'Emmaüs en disant, voilà ce qui est écrit. Cela a suffi pour les sortir de leur tristesse. Pour rentrer maintenant dans la foi, dans la vie du Seigneur, avec paix, avec joie. Et le Seigneur nous rappelle aujourd'hui ses promesses. Que le Seigneur nous aide à plonger nos regards dans sa parole. Et comme il est écrit dans le psaume 107, que la parole de Dieu puisse guérir, que la parole de Dieu puisse consoler nos cœurs, que la parole de Dieu soit la réponse à toutes les questions que nous nous posons au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta parole, Seigneur. Merci parce que tu nous fortifies. Seigneur, merci parce que nous avons vu l'exemple, Seigneur, de Josué à qui tu as parlé, Seigneur. En lui disant d'être courageux. Parce que des temps difficiles arriveraient certainement, Seigneur. Mais tu lui as dit, Seigneur, de s'appuyer, Seigneur, sur ta parole. Nous avons vu l'exemple de notre Seigneur Jésus qui a eu faim. Et à ce moment, le diable, le tentateur, est venu pour le sortir de ta volonté au Père éternel. Mais notre Seigneur est resté attaché à la parole de Dieu, à ta parole. Seigneur, nous avons vu l'exemple de Marthe et Marie. Tu as permis que la situation soit ainsi, afin de rappeler à Marthe, afin de rappeler à Marie, mais afin de rappeler aussi à tous ceux qui étaient là, que nous devons croire en ta parole, quelle que soit la situation. Seigneur, nous avons vu l'exemple de Jean-Baptiste, qui lui-même a annoncé la venue de notre Seigneur Jésus. Mais il y a eu un moment où la détresse, la souffrance était grande. Il a eu besoin d'être encouragé. Seigneur, nous avons besoin d'être encouragés par ta parole, Seigneur, ce matin. Comme Jean-Baptiste, comme les disciples d'Emmaüs, nous avons besoin d'être encouragés, Seigneur. Seigneur, ouvre nos yeux afin que nous puissions, Seigneur, voir les merveilles de ta loi. Ouvre nos yeux afin que, Seigneur, ta parole soit claire, Seigneur, à nos yeux. Ouvre nos cœurs aussi afin que nous puissions accepter ta parole telle qu'elle est, Seigneur. Seigneur, nous bénissons ton nom pour ta fidélité, pour la force que tu nous donnes, Seigneur, au travers de ta parole. Tu dis que, Seigneur, même les jeunes hommes, Seigneur, ils se fatiguent, ils s'essoufflent, Seigneur, mais ceux qui se confient en toi, ils renouvellent leur force. Seigneur, nous voulons nous confier en ta parole. Tu dis, Seigneur, que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de ta parole, Seigneur. Nous prions pour qu'au travers de ta parole, la foi puisse naître dans nos cœurs. Là où il y avait des doutes, là où il y avait des impasses dans nos vies, Seigneur, où on pensait que c'est fini, il n'y a plus rien à attendre. Seigneur, toi, tu nous dis que tu as le dernier mot, Seigneur. Merci, Seigneur, de nous encourager par ta parole. Que ton nom soit glorifié.